France Inter.
Bonjour, je suis Jean à Limoges et je m'étonne quand même sur la montée des eaux qu'on accuse l'homme, coupable de tout. Mais quand la grotte de Cosquaire a été inondée parce que les peintres qui l'ont décorée, eux, venaient à pied, donc on peut considérer que la Méditerranée à l'époque, depuis cette époque, a monté de 8 ou 10 mètres, qui est coupable? Est-ce que les écolos punitifs vont encore accuser l'homme?
Bonjour, la Terre au carré. Yann de Marseille, je vous appelle parce que dans le cadre de la flamme olympique et de tout ce qui se passe, ici il y a une association qui s'appelle Clean My Calanque et qui est chargée de nettoyer les plages, les calanques avec beaucoup de bénévoles. Et elle a été présélectionnée pour le passage de la flamme et la transporter. Ils s'y sont opposés, ils ont refusé en disant bien qu'il y avait deux raisons principales. Un, le partenariat avec cette boisson insipide américaine Coca-Cola, dont le concert d'ailleurs n'est qu'à ce titre-là, mais surtout qu'eux ramassaient principalement beaucoup de plastique et de canettes de cette marque sur les plages et qu'il n'était pas question qu'ils les valorisent. Eh bien, ils ont eu un tout petit article et puis plus rien. Ben voilà, peut-être que vous le ferez. Merci, bonne continuation à tous et bon courage.
Bonjour, c'est Sylvie. De hier, je tiens à parler de ce qui se passe sur la superbe presqu'île de Gien. Suite à votre émission de ce jour, vous alertez qu'il y a eu, pour un complexe hôtelier, à moins de 100 mètres de la plage, un hectare de construction d'immeubles de 2 étages, des centaines d'arbres arrachés. Une catastrophe écologique, on se demande, puisque la presqu'île est quand même classée, comment est-ce possible, et permis de donner en bord d'une mer, une catastrophe. Et peut-être sur Porquerolles aussi. Voilà, bonne journée.
David de Perros-Guirec. Bonjour la Terre au Carré, bonjour à tous. Du 17 au 20 mai prochain se déroulera un rassemblement de parachutistes à Perros-Guirec. À cette occasion, deux avions largueurs très bruyants vont effectuer près de 160 vols et brûler plus de 10 000 litres de kérosène. Les atterrissages se feront sur une des plages de la commune, en bordure d'une zone Natura 2000, à savoir la réserve naturelle des Sept Îles, qui abrite la seule et unique colonie de footbassins en France. Cette colonie, en pleine période de nidification, a perdu 50% de ses effectifs en 2022, après une épidémie de grippe aviaire. Elle est donc fragile, et le bruit de ces avions risque de fortement la perturber. C'est absurde et désolant, on marche vraiment sur la tête.
Merci beaucoup pour tous ces messages et pour tous les nombreux autres que nous écoutons sur le répondeur au 01 56 40 45 45. Le tourisme a été pendant longtemps réservé à une élite, mais il est devenu au fil du temps une activité amplement partagée. Et même si toutes les franges de la population ne peuvent pas se permettre de partir en vacances, le tourisme a connu ces dernières années une forte croissance avec la démocratisation du temps libre à l'échelle de la planète. Il est devenu également une véritable industrie, un voyage porteur d'un imaginaire très positif avec ce désir d'aller à la rencontre de l'autre et de vivre des aventures. Mais le tourisme aujourd'hui est aussi interrogé. J'ai remis en question à l'heure de la crise écologique. On a vu apparaître ces dernières années un tourisme durable et éthique qui tente de baisser l'empreinte des voyages. Certaines personnes ont décidé de modifier leur façon de se déplacer en privilégiant par exemple le tourisme local, lorsque d'autres dénoncent carrément la vision coloniale du tourisme et des voyages. Avec nos invités, nous allons voir comment la perception du voyage est en train de bouger, quels sont les enjeux pour le tourisme de demain. Et pour en parler, je reçois en studio Saskia Cousin et Linda Boukris, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue Saskia Cousin, vous êtes anthropologue, professeure de sociologie, spécialiste du tourisme et des questions de restitution des biens culturels à l'Université Paris-Nanterre. Et vous avez publié récemment avec Bertrand Réau, Sociologie du tourisme aux éditions de La Découverte. Linda Boukris, vous êtes quant à vous géographe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice adjointe de l'IREST, l'Institut de Recherche d'Études Supérieures du Tourisme. Et puis nous sommes en duplex avec vous, Lucie Azéma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et voyageuse et vous avez publié « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ » chez Flammarion. On va donc se retrouver dans un instant pour réfléchir à nos façons de voyager, à notre condition de touriste. On aimerait vous entendre d'ailleurs pour savoir si vous aussi vous questionnez votre façon de découvrir le monde proche ou lointain. Vos messages et vos témoignages dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
La France a des idées et du pétrole et le gouvernement
gouvernement a donné son feu vert pour deux nouveaux forages en Île-de-France, juste à côté de captages d'eau potable considérés comme stratégiques. Encore une bien bonne idée, tiens.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Chantal Lemontagnier avec Tiffany Battistel et Enzo d'Hospital à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans la ville basse de Lisbonne, les boutiques de souvenirs se suivent et se ressemblent. Passage obligé des touristes, tout comme la photo souvenir sur les bords du Tage.
Il y a vraiment énormément de touristes, effectivement, mais quand on y vient, on le sait. Donc on s'en accommode.
On aimerait être seul. Pour ça, on pourrait visiter plus facilement.
Avant, au château, il y avait beaucoup de commerce, des épiceries. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus que des boutiques à touristes. Il n'y a plus aucun commerce traditionnel portugais. Tout est tourné vers le tourisme.
Voilà, reportage de France 3 en avril 2019. Un exemple parmi tant d'autres avec à l'instant la voix d'un habitant d'un quartier de Lisbonne. Réflexion donc sur le voyage, sur notre condition de touriste aujourd'hui avec nos invités, l'anthropologue Saskia Cousin, la géographe Linda Boukris et l'autrice Lucie Azéma. Saskia Cousin, première question. Est-ce que l'envie de voyager, finalement, c'est pas le propre de notre humanité? Est-ce qu'on n'a pas toujours eu envie d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la colline?
Oui, absolument. Les touristes, c'est une petite partie des voyageurs. On a toujours voyagé. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas colonisé la Terre. Donc voilà, depuis toujours, il y a des... Et souvent, c'est les jeunes générations. Hein. Il y a ce désir d'aller voir, justement, de l'autre côté de la colline, si l'herbe est plus verte. Et puis, il y a aussi... c'est un rite d'initiation dans toutes les sociétés humaines. En fait, le fait de partir quelque part et de revenir. Ce qui est peut-être propre au tourisme et aux sociétés occidentales, c'est la façon dont ça a été raconté et la façon de penser qu'on est les seuls à le faire.
Linda Boukris, justement, est-ce que il faut faire une distinction entre le touriste et le voyageur ou pas? Ou c'est, finalement ça raconte la même chose, hein?
Oui, alors c'est il y a effectivement ces écrits classiques hein, du touriste étant l'idiot du voyage. Ça, c'est aussi une construction, hein, cette séparation entre un touriste souvent associé au tourisme de masse, destructeur des sociétés visitées, de leurs habitants, de leur territoire, et puis le voyageur qui est une figure un peu émancipée, plutôt une élite.
C'est ça, c'est
du
plus
voyage.
Noble. Il y a quelque chose de plus noble hein, dans le voyageur. Et au fond, on recherche tous à être plutôt un voyageur qu'un touriste, quand
exactement.
Même, non?
Exactement. Il y a cette représentation, effectivement, du voyageur comme étant...
Alors,
vous n'avez pas l'air d'accord avec
oui.
ça. Pourquoi?
Pas parce que justement cette construction de l'idée que le touriste c'est toujours les autres qui a été beaucoup étudié par Jean-Didier Durbin, c'est aussi une construction occidentale et dont j'avais travaillé il y a quelques années sur la manière dont se présentaient par exemple les touristes chinois. Il y avait cette volonté d'être un touriste et d'aller dans des endroits qui montraient qu'on était bien dans un endroit touristique.
Ouais.
Et donc c'est
pourquoi? Parce que ça dit quoi au fond?
Parce que en fait. Ce que ça dit, c'est ce déni du touriste, il y a un ouvrage sur ce qui parut en 73 sur cette question, hein, c'est vieux, hein,
ouais.
Dean McCall, The Tourist, c'est les élites urbaines occidentales qui se racontent à elles-mêmes qu'elles veulent être les premières à conquérir, à découvrir un endroit.
Ouais.
Et donc, être un touriste, c'est revenir dans un endroit qui a déjà été vu, et on dit que c'est un processus mimétique.
Mmh.
Et donc, les élites occidentales ont besoin de se dire qu'elles sont les premières.
Ouais. Justement, qu'est-ce que ça dit, par exemple, pour les populations qui revendiquent le fait d'être un touriste dans un endroit très visité, alors?
C'est parce que le tourisme est associé à une idée de bien-être social, économique et de modernité. Et donc, tandis que ces élites occidentales cherchent en fait un passé qui n'a jamais existé, hein, et puis, elles vont finalement chercher le futur. Et donc, vouloir aller dans un endroit de la manière qui montre une forme de modernité. Et là, je parle des touristes chinois il y a peut-être 20 ans, maintenant ça a un peu changé, ou il y a 15 ans, où finalement, c'est l'idée de la modernité, du capitalisme,
ouais.
qui était quelque chose de désirable à ce moment-là.
Mais c'est vrai que quand on écoute nos propres récits de voyage, on rapporte toujours cette chose d'avoir découvert cet endroit où personne n'est jamais allé, ou cette petite table incroyable où personne n'a jamais mangé, ou en tout cas fréquenté par les gens du lieu, mais pas par les touristes. Hein. Il y a toujours ça, il y a distinction qu'on revendique.
Se raconter cette histoire-là,
ouais.
c'est s'inventer en fait comme explorateur,
absolument.
Alors que finalement on l'a lu dans un guide.
Et donc ça veut dire se réinscrire dans cette longue histoire aussi des voyageurs, on parlait de construction sociale occidentale, mais dans cette longue histoire des voyageurs, notamment européens et nord-américains, qui parcourent une partie du monde, qui écrivent des récits récits de voyage, des récits de voyage qui sont beaucoup traduits et beaucoup lus. C'est un genre qui est beaucoup lu en Europe au 19e et qui va contribuer à façonner des imaginaires géographiques.
Lucie Azéma, alors vous abordez la question du voyage avec une réflexion féministe sur le sujet, l'histoire des explorations ou la littérature d'ailleurs d'évasion qui ont longtemps, vous le rappelez, ignoré le parcours et les écrits féminins.
Oui, tout à fait. Et alors que les femmes ont toujours voyagé de tout temps, on trouve même les premières traces de récits de voyage en tant que forme littéraire. C'est une femme qui l'a écrit dans l'Antiquité, qui s'appelait Égéria, et qui racontait sous forme de lettres son voyage à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est cette invisibilisation des femmes, donc qui est propre à la littérature et, de manière générale, et qui se retrouve évidemment dans la littérature de voyage. C'est exactement le même processus pour tout ce qui est du domaine de les visions purement occidentales du voyage. Donc on a le monde qui est raconté non seulement par des hommes, mais par des hommes occidentaux. Mmh. Et tout ça nous a privé aussi de tout un pan de ce qu'on aurait pu aussi lire, qui ont été supprimés.
Parce que vous rappelez qu'il y a eu de très grandes voyageuses, et nombreuses d'ailleurs, mais qui ont été invisibilisées au fond, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Saskia Cousin, ouais, allez-y.
Non, je voulais dire qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans l'écueil de dire qu'elles ont autant voyagé que les hommes, parce qu'elles ont été évidemment privées d'accès à leur propre argent, à l'éducation, à des choses. Mais en tout cas, elles ont toujours eu ce désir de voyager et elles ont toujours raconté.
Oui, on verra avec vous certaines figures de proue, hein, justement, de ce voyage qui illustre bien ce que vous venez de nous dire. Saskia Cousin, à partir de quand le tourisme est devenu vraiment une pratique de masse? Alors, je parlais de démocratisation dans pratiquement tous les pays du monde aujourd'hui. À partir de quand on observe ce phénomène, au-delà des élites, alors, hein?
Alors, la question de la masse, elle est problématique, hein. C'est une forme de racisme de classe de dire tourisme de masse, mais on va dire qu'il y a une massification du voyage, ce qui n'est pas la même chose que de parler de la masse. À partir des années 50, on commence à avoir, avec l'offre, enfin l'industrie aérienne, ça dépend si on parle du tourisme international en fait, et donc ça se développe à partir des années 50. Mais il y avait déjà, l'enjeu c'est aussi le rapport aux vacances et au temps libre. Donc quand on pense tourisme, on pense toujours justement industrie aérienne, déplacement, tourisme international. Mais on peut regarder les choses différemment en s'intéressant à la démocratisation de l'accès au temps libre, congés payés, aux vacances, etc. Donc c'est plus tout à fait la même histoire. Mais on va dire la mondialisation des touristes, c'est assez récent en fait. C'est les années 90 avec l'accès aux congés payés, 90-2000, l'accès aux congés payés des Chinois en fait, en 2005 il me semble. Et puis au Brésil, etc. L'accès d'une classe moyenne et d'une élite des pays du Sud au tourisme international.
Linda Boukris, en quoi il est problématique ce terme de tourisme de masse, alors, pour aller un petit peu plus loin?
Non, parce que ça renvoie effectivement à cet élément de distinction par rapport au voyage, et donc tout ce qu'on a évoqué, hein, Saskia, vous évoquiez l'idée d'un racisme de classe. C'est en cela qu'il est problématique.
Saskia Cousin.
Par exemple, tout le discours l'année dernière, je ne sais pas si vous avez, enfin, ça a l'air de recommencer sur la question du surtourisme, qui en fait vise à dénoncer des lieux qui sont des pics de fréquentation. Si vous allez au Mont-Saint-Michel 15 août, il y a trop de monde, mais en fait, si vous y allez, c'est que vous le savez. Et en fait, derrière, l'enjeu, c'est de dénoncer le trop-plein de la masse à certains endroits. Et on peut aussi penser avec Rémi Knafou que l'enjeu, c'est de relancer l'industrie aérienne des low cost, puisqu'on commence à avoir trop de gens qui partent en vacances en France, et ça déplaît une certaine industrie.
On parlera des inégalités d'ailleurs, voilà, au sein même du voyage.
Donc sur l'accès aux vacances, l'accès aux congés payés est quelque chose qui permet en fait un accès plus démocratique. Mais quand on parle du tourisme de masse ou qu'on parle de l'industrie aérienne, en fait c'est une toute petite partie des gens, hein. On dit 1,5 milliard de touristes, c'est faux, il y a à peu près 250 millions de personnes qui prennent l'avion pour leurs vacances. Donc en fait il faut toujours assez relativiser par exemple l'impact écologique, il est fait essentiellement par un tout petit nombre de personnes qui prennent l'avion un grand nombre de fois.
Allez, on y revient dans un instant. On va se réinterroger, on va questionner notre statut de touriste, de voyageur. Et puis on parlera du voyage colonial et décolonial, parce que c'est un enjeu aussi au cœur de la société. Aujourd'hui, vous nous envoyez vos messages, bien sûr, sur franceinter.fr.
But I je préférais oublier mon passé, me noyer dans l'océan de mes pensées. Parlons-nous là ou même là, tout ça prend du temps. Combien de temps passé dans le brouillard, okay, okay. Je me sens m'enfoncer dans un trou noir, okay, okay. Je ne vois plus mon reflet dans le miroir, tu sais, je doute.
Arlo Parks, Loose and the Yakuza, I'm sorry sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Madame, si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages.
J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir. Ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela ? Ça, c'est une question de philosophie.
Oui.
Ça n'a rien à faire avec mes voyages.
Voilà, en 1969, elle fêtait ses 100 ans, l'aventurière Alexandra David-Neal. Comment déconstruire la question du tourisme aujourd'hui, dossier de l'émission avec nos invités Saskia Cousin, Linda Boukris et l'autrice Lucie Azéma. Vous connaissiez la voix d'Alexandra David-Neal, Lucie Azéma, ou pas?
Oui, j'ai écouté beaucoup d'enregistrements.
Ouais, voix très particulière, évidemment, et qui fait partie de ces figures que vous aimez beaucoup.
Oui, c'est une figure patronesse presque de Alexandra David-Neal. Elle a fait des choses. Enfin, c'est la première femme à être entrée à Lhasa, la capitale du Tibet, au début du XXe, alors que c'était interdit. Elle a eu mille vies, chanteuse lyrique, exploratrice, autrice anarchiste, féministe. Donc, c'est évidemment une figure importante. Après, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai que sur la question de la colonisation. C'est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup accommodé de la colonisation et des espaces qu'elle a pu traverser grâce à ça. Donc oui, mais disons que elle se comportait comme un homme de son temps, en fait.
Ouais. Saskia Cousin, quand on entend parler de décoloniser le voyage, justement, hein, il y a un compte Instagram qui s'appelle Décolonial Voyage. Qu'est-ce qu'on interroge au fond? Qu'est-ce qu'on veut dire?
Alors on interroge plusieurs choses. On interroge d'abord les imaginaires, les récits. Voilà. Comment est-ce que les images qui nous viennent à la tête, les récits qu'on lit, sont construits, sont dans une histoire qui est une histoire de la colonisation, de l'exploration, de la découverte des missionnaires, des colons, des ethnologues, ouais. Des voyageurs et des touristes, et donc qui ont nourri cet imaginaire là. Et ensuite, sur les pratiques qui sont liées à l'industrie extractiviste du tourisme, en fait, sur le fait qu'en moyenne, 88% de ce qu'un touriste du Nord dépense dans un pays du Sud revient à une industrie située dans le Nord. Donc c'est à la fois deux choses, c'est l'histoire des récits et des imaginaires qui disent « j'ai fait la Thaïlande », qui renvoie aux conquêtes coloniales.
« J'ai fait la
j'ai
Thaïlande ».
C'est un terme des guerres coloniales. « J'ai fait l'Algérie, j'ai fait l'Indochine ».
Ou « j'ai fait l'Italie », d'ailleurs, on dit la même chose.
Oui, mais ça, l'expression vient, en fait, c'est un vocabulaire militaire.
Ouais.
Donc c'est des petits exemples comme ça. Avoir conscience de ça, et puis ensuite, en pratique, avoir conscience de ça, travailler sur ces images, c'est un peu la spécialité de Linda.
Merci de faire la transition avec Linda Boukris, puisque effectivement, vous travaillez beaucoup sur les imaginaires. Est-ce qu'on peut citer un exemple, par exemple, sur lequel vous travaillez pour comprendre de quoi on parle là?
Oui, alors il y a effectivement plusieurs imaginaires géographiques qui ont nourri aussi notre désir pour un certain nombre de territoires et leurs habitants. Alors aussi bien l'imaginaire de la tropicalité, alors aussi bien la forêt tropicale que la plage tropicale, mais ça peut être aussi l'imaginaire orientaliste.
Ça c'est l'imaginaire des brochures touristiques un petit peu qu'on trouve.
Oui, mais qui a été effectivement forgé dès le 19e dans un contexte colonial et impérial et on peut mentionner le rôle de tous ces corpus qui ont été revisités par des historiens, par des géographes, que sont, alors j'ai mentionné les récits de voyage, mais il y a aussi la peinture de Gauguin et la Polynésie française, les photographies à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a tout un corpus d'images et de textes, les textes scientifiques, hein, beaucoup de scientifiques, Alexander von Humboldt, géographe naturaliste qui a parcouru les Amériques et qui a contribué à forger des images typiques de cette Amérique tropicale, les forêts tropicales, les plaines intérieures,
la jungle,
les cordillères, hein. Exactement. Donc, oui,
ça veut dire que quand on arrive dans un pays, on a ces images-là en tête, exactement, en réalité. Exactement. Et qu'elles nous conditionnent aussi dans notre façon d'agir, d'être avec les populations locales, par exemple.
Exactement, hein. qui se matérialisent dans des pratiques. Visiter un espace protégé, parcourir un pont suspendu, pratiquer la tyrolienne à la cime des arbres. Voilà, on s'inscrit dans des pratiques. Vous parliez de la figure du voyageur, qui sont assez situées du point de vue d'un rapport à l'environnement, qui est voilà, cette idée d'un Éden vierge, pur, sauvage. De l'Amérique tropicale.
Alors, il y a un pays qui incarne ça très bien, c'est le Costa Rica. On va écouter l'extrait d'un reportage de France 2 en 2019. On en parle juste après.
Je pense qu'à un moment, les Costaricains, enfin, le tourisme va venir. Le tourisme, c'est de l'argent. Et il va falloir qu'ils trouvent le bon moment où stopper le... Et je pense que ça, c'est difficile.
Dans la péninsule de Nicoya, Santa Teresa, 500 personnes il y a 20 ans, au moins 6000 aujourd'hui. Et un flux permanent de touristes. Pour les accueillir, les petites structures de 30 à 50 places se multiplient de façon un peu anarchique.
Ça, c'est déjà usé des établissements et des maisons. C'est cool ici, dans la rivière. Et ici, on est à 50 mètres de la mer.
Voilà, le Costa Rica. Qu'est-ce qui se passe derrière l'image de carte postale, alors, en réalité? C'est ça? C'est les eaux usées des touristes qui coulent dans la mer?
Alors, l'envers de la carte postale, effectivement, le Costa Rica bénéficie d'une image touristique très puissante, hein, un imaginaire de paradis écologique, paradis politique. C'est 3 millions de touristes, de visiteurs chaque année. Donc, effectivement, c'est une puissance touristique régionale très importante. L'envers, c'est effectivement... un pays qui a mis en place un système de conservation. C'est à peu près un tiers du territoire qui est protégé, mais c'est aussi un régime d'exploitation de type extractiviste. C'est aussi des choix économiques en termes d'agriculture. Voilà, depuis les régimes de plantation de bananes au Costa Rica jusqu'à aujourd'hui la production de l'ananas. Le Costa Rica est un des pays les premiers utilisateurs de pesticides dans la production agricole. Voilà. Et effectivement, sur la question du tourisme, il y a de nombreux conflits socio-environnementaux au Costa Rica, liés à des conflits d'usage, liés à la terre, liés à l'eau, qui effectivement sont très présents, qui sont aussi l'envers de cette carte postale.
Derrière ce pays qui défend, qui met la biodiversité vraiment en avant, eh bien, il y a aussi cette fréquentation massive qui a aussi, du coup, in fine, des effets sur la biodiversité. On peut aussi aller jusque-là.
Oui, mais je pense aussi que l'enjeu d'un rapport, de questionner aussi la dimension coloniale dans ces pratiques-là, c'est aussi d'aller de donner de l'espace aussi à d'autres narrations, d'autres rapports à l'environnement. Derrière l'image de la biodiversité, de la forêt tropicale, du discours très puissant de l'écologie tropicale scientifique, il y a aussi d'autres mémoires, d'autres pratiques, d'autres rapports à l'environnement qui existent, qui sont le fruit de, voilà, qui sont portés par des populations natives, qui sont portés par voilà, plusieurs types de populations. Alors, j'ai notamment regardé les populations... Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la plaine caribéenne du Costa Rica, composée d'une diaspora afro-descendante principalement venue de Jamaïque pour travailler dans les plantations de bananes au Costa Rica et qui ont participé à la transformation de ces paysages, qui ont des mémoires, qui ont des récits qui méritent aussi d'être découverts, discutés. Voilà.
Saskia Cousin, le Costa Rica, emblème de l'écotourisme. Alors ça, c'est un genre qui est né aussi ces dernières années. On s'est dit, on va réfléchir à la façon dont on voyage dans le monde, et puis on va essayer d'avoir des pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement. L'écotourisme, le tourisme éthique, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
En fait, le diable est dans les détails. C'est-à-dire... vous partez à l'autre bout du monde dans un écologe, bon là c'est pas un détail, c'est-à-dire concrètement, si votre préoccupation c'est d'avoir un moindre impact sur l'environnement, vous commencez pas par prendre l'avion. Donc voilà, donc ça c'est pas un détail, c'est... Après ensuite quand vous êtes sur place, il y a un problème qui est lié justement à ces images, cette imagerie, ces imaginaires dont parle Linda, c'est que ces imaginaires sont des imaginaires de la nature sans habitants. Sans population humaine. Et du coup, ça revient dans plein de pays à vider, en fait. Et il y a des structures dites écologiques, plutôt d'ordre paramilitaire, à vider les parcs, par exemple, des humains, parce que justement, ils ne rentrent pas dans la carte postale, puisque ce qu'attend le touriste occidental,
c'est l'animal
et sa relation à lui. En fait, lui occidental, direct avec l'animal, et non pas un enjeu qui serait de participer à rencontrer en fait comment des humains justement peuvent interagir avec l'ensemble des vivants.
Autrement qu'avec un guide touristique issu du pays.
Alors, je pense que c'est important d'avoir un guide touristique, mais l'enjeu là, c'est concrètement, c'est qu'on empêche. Moi, j'ai des exemples très concrets de personnes qu'on empêche de rentrer dans les parcs pour aller chercher, par exemple, des feuilles pour se soigner.
De personnes locales,
parce qu'il faut que le parc soit vidé de ses habitants.
Camille.
Philippe nous écrit. On revient sur ce qu'on disait au début de l'émission sur l'envie d'aller voir de l'autre côté de la colline. Super difficile quand on est parent de limiter, voire de stopper les voyages lointains, tout en voulant ouvrir ses enfants à l'altérité. Il y a aussi effectivement dans la dimension d'aller voir d'autres cultures et de s'ouvrir un petit peu les chakras et l'esprit. Comment est-ce qu'on fait face à ça, sans prendre l'avion en l'occurrence ?
Alors l'enjeu, c'est pas d'arrêter de prendre l'avion, mais l'immense majorité des vols sont des vols secs en Europe qui consistent à aller passer le week-end à Lisbonne ou à Amsterdam. Donc en fait, je suis pas en train de dire qu'il faudrait, pour pouvoir continuer à emmener nos enfants découvrir le monde. D'abord, je pense que le monde, il est au bout de la rue. Il faut juste apprendre à peut-être se promener au bout de la rue, on pourra y revenir.
Oui.
Mais c'est aussi l'industrie aérienne, en fait, se nourrit de ce type de discours pour continuer à nous vendre des vols secs à 30 euros pour aller à Lisbonne plutôt que de prendre le train. Donc, il faut dissocier les deux.
Mais au niveau culturel, il y a quand même des différences. Je veux dire, si on prend un Européen qui va en Asie ou vice-versa, c'est pas du tout la même chose.
Absolument. Donc, l'enjeu, c'est que de pouvoir continuer à aller en Asie, donc se dire ben je vais arrêter de faire aller tout le temps à Lisbonne en avion et aller plutôt en Asie une fois, et aussi de se dire ben en fait il y a aussi des Asiatiques qui viennent chez nous, on peut aussi les rencontrer. Je parle de l'Asie hein, mais on peut avoir des balades au bout de la rue. Mais je pense que c'est important. Je suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas, qu'il faut totalement arrêter de voyager. Je pense que malheureusement, vu comment on y va, c'est ce qui va se passer. Mais on pourrait aussi avoir une réflexion. Moi, je suis un peu pour une sécurité sociale du voyage, vous voyez, qui serait que finalement on réserverait les voyages d'agrément, parce que la plupart des gens qui voyagent c'est pour des raisons familiales notamment, on réserverait les voyages d'agrément, par exemple on reviendrait à une constante anthropologique, c'est-à-dire quand vous avez passé votre bac par exemple, vous pouvez avoir un droit au voyage, et puis que par ailleurs il y a un nombre limité de voyages dans l'année. Alors
on dirait Jean Covici,
ouais,
hein,
c'est même dans
une vie, lui, c'est même pas dans l'année, c'est un nombre de voyages dans une vie.
Oui, tout à fait. Alors si on le met à l'échelle mondiale et qu'on réfléchit à ce qui nous reste, là on arrive à Jean Covici. Mais là, moi, c'était une mesure, enfin, de réfléchir aussi toujours. Comment est-ce qu'on interagit avec le fait qu'on a une mondialisation des touristes, et que donc il faut réfléchir avec ça aussi.
Eh bien, on y réfléchit ensemble dans un instant. On verra à quoi pourrait ressembler ce voyage décolonial avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
C'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et ma petite passion archive m'a encore titillée aujourd'hui. Écoutez bien, nous sommes le 6 juillet 2022. Elisabeth Borne, première ministre, prononce son discours de politique générale à la tribune de l'Assemblée nationale et dit ça.
Mesdames et messieurs les députés, nous voulons être, nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles.
Wouhou ! Trop forte la France, elle s'aligne avec les recommandations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Cesser toute nouvelle exploitation de charbon, de pétrole ou de gaz et sortir des existantes. Une loi d'ailleurs a été votée en 2017, donc avant ce discours, prévoyant d'interdire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire, mais, petit nota bene, d'ici 2040. Voilà, l'échéance, c'est pas sur un mode hyper pressé. Et devinez ce qu'a fait cette même Elisabeth Borne le 27 décembre dernier. Autrement dit, quand tout le monde est occupé pendant les fêtes et un petit peu moins focalisé sur le journal officiel, elle a signé un décret autorisant deux nouveaux forages pétroliers en Seine-et-Marne, suivi par un arrêté préfectoral. Oui, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant,
oui,
je vous le redis,
il y a
des puits de pétrole absolument dans l'Hexagone, plusieurs milliers de forages dans 9 gisements principalement en région parisienne. Alsacienne et en Aquitaine, qui fournissent un tout petit pourcent de notre consommation totale. De nouveaux forages donc pour l'entreprise Bridge Energy, qui en a déjà 3 en service depuis 2012, qui produisent 75 barils par jour. Petite entreprise qui représente une trentaine d'emplois au total. Elle m'a écrit par mail, je cite, que ces deux puits sont prévus d'être forés courant 2025 sur la plateforme existante, sans modification de son mode de fonctionnement ni élargissement de son emprise au sol, et que ces nouveaux puits traversent les mêmes aquifères que ceux de géothermie et répondent à toutes les normes de protection des aquifères conformément à la réglementation environnementale. Nos installations et nos travaux font l'objet de contrôles réguliers et de déclarations auprès de notre administration de tutelle, la Direction régionale de l'environnement. Et si l'entreprise insiste sur ces points, c'est parce que l'affaire fait grand bruit, comme on dit. La une de Libération, même hier, qui titrait « Le pétrole va couler à flotte ». Parce qu'au-delà du symbole, franchement pas ouf, même si la loi l'autorise encore donc, d'ouvrir de nouveaux forages en pleine crise environnementale, ces forages, situés à moins de 5 km de la forêt de Fontainebleau, sont à même pas 200 mètres d'une rivière protégée, classée Natura 2000, et à proximité immédiate de sources d'eau stratégiques pour l'alimentation en eau potable. C'est le président d'Eau de Paris, Danler, qui a prévu les médias.
On parle de l'alimentation en eau de 180 000 franciliens, parisiens et sénémarnais. Pour vous dire, c'est à peu près 25 000 mètres cubes par jour qui sont captés en eau potable à cet endroit-là, dans ces captages-là. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique en puissance.
Expression répétée partout par Danler, par ailleurs adjoint écologiste à la maire de Paris, en charge de l'eau, qui a déposé au nom d'Eau de Paris 2 recours. Un en référé demandant la suspension de l'arrêté et un autre sur le fond pour demander son annulation et à terme l'abandon du projet. Aucune manœuvre politique derrière ça, il l'assure, c'est juste le risque de pollution sur lequel il veut alerter.
C'est pas une alerte, j'allais dire, fantasmée, c'est pas du catastrophisme, c'est vraiment une alerte qui est objectivée. Ce sont des risques qui sont non seulement potentiels, mais qui sont avérés. Sur cette plateforme pétrolière, il y a déjà eu 2 incidents. Il y a eu un déversement d'hydrocarbures par camion en 2013, et puis en 2022, nouvel incident sur la plateforme elle-même, puisqu'il y a un joint de canalisation qui a été mal fermé. Et il y a eu aussi, là aussi, des pollutions sur le site de la plateforme pétrolière qui, encore une fois, est à 150 mètres d'une rivière classée Natura 2000. S'il y avait une pollution, que ce soit dans le Lunin ou en surface sur cette nappe phréatique, la rapidité de l'infiltration de la pollution de la marée noire sur la nappe phréatique serait énorme. Et donc, les dégâts seraient très difficiles à réparer, voire impossibles. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement joue avec le feu dans un endroit aussi important que l'est cette zone de captage.
Un poil de politique quand même. Et les maires des communes concernées ne sont pas contents eux non plus. Alors le patron de Bridge Energy, lui, ne veut pas s'exprimer tant que la procédure est en cours pour ne pas interférer. Donc je ne vous raconterai pas mon coup de fil ce matin avec lui pendant lequel il n'était pas du tout agacé. Lui ne fait rien d'illégal, encore une fois. Le gouvernement lui donne le droit d'augmenter sa surface d'exploitation par 5 de 13 km² à plus de 50 km². Gouvernement qu'on n'a pas entendu depuis hier. Pour la petite histoire, quand même, l'actuel ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, ancien maire de Fontainebleau, avait fait part de ses réserves en 2020, en raison notamment du risque pour la qualité des eaux, sans parler de la raréfaction de la ressource. Bref, tout cela doit être sanctuarisé pour le président d'Eau de Paris, au-delà de ses captages à lui.
On voit avec les scandales à répétition, que ce soit Nestlé, les PFAS, les risques industriels liés aux pollutions aux hydrocarbures, que les captages d'eau en France sont très très mal protégés. On a besoin vraiment en France d'un nouveau cadre législatif et réglementaire pour protéger beaucoup plus efficacement les captages d'eau.
Mais d'ici là, puisons donc du pétrole jusqu'au dernier moment et jusqu'à la dernière goutte. Après tout, on a le droit.
Merci beaucoup Camille Cronier. On vous réécoute comme tous les jours sur franceinter.fr à la page de l'émission.
Saskia Cousin, une réaction? Je vous vois dépité,
le soupir dit tout déjà.
Oui. Oui, je suis assez dépité. Oui, je ne comprends pas comment une ressource stratégique comme l'eau peut être mise en danger pour quelques gouttes en fait. Je comprends pas à la fois le message politique qui est derrière et l'enjeu économique et citoyen en fait. Ça concerne des centaines de milliers de gens. Enfin. Ça met en danger en fait. On a besoin de l'eau pour vivre en fait. Donc je suis très étonnée. Je ne comprends pas la logique. Je peux comprendre une logique politique, je peux comprendre une logique économique. Mais là, en fait, je ne comprends pas. Voilà.
Linda Boukriz.
Ça interpelle la géographe.
Non, j'allais dire, peut-être que ça renvoie plus largement à
une matrice qui articule à la fois logique extractiviste de prédation des ressources naturelles et logique de conservation. Et qui ne voit pas les contradictions, pour ça on parle un peu de matrice, hein, c'est-à-dire, et qui pense le rapport à la conservation à travers des espaces protégés, par exemple, mais pas dans une éthique environnementale inscrite au quotidien, dans des formes d'habiter au quotidien. Et là, il me semble que c'est aussi, hein, en revenant sur le sujet de la colonialité, en tout cas, c'est aussi le fruit d'une certaine conception de l'environnement qui est éminemment situé dans le monde occidental et qui s'accommode très facilement d'un côté conservation, de l'autre logique extractiviste, et qu'on retrouve dans beaucoup de pays.
C'est fou que l'eau soit un impensé, en fait, dans cette histoire.
Oui, complètement.
On a quand même besoin
de la préserver. Qui est au cœur de notre existence, effectivement.
Allez, on se retrouve dans un instant, car nous déconstruisons le tourisme cet après-midi dans la Terre au Carré. Howling Joes, à l'instant sur France Inter.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier, sur France Inter.
À quoi sert le tourisme ? Vaste question, mais il y a un aspect que bien des politiques n'ont toujours pas compris. C'est que le tourisme est un régulateur social, que la paix sociale passe par le droit au tourisme. La place du tourisme dans la vie des gens, au sens très large, hein, de tourisme, hein, c'est-à-dire que ce soit pour un séjour, que ce soit pour un circuit, etc. D'abord, c'est une possibilité d'extériorité. C'est pouvoir sortir de chez soi, et donc sortir de soi aussi. C'est quelque chose qui participe du temps de ma vie, comme une sorte de vie alternative. Donc la culture du voyage, elle s'est introduite partout, et tout le monde en a besoin. Ce n'est plus une récompense, c'est un droit.
C'est la voix du sociologue Jean-Didier Urbain en 2021 dans une vidéo de Paris Aéroport. Comment déconstruire la question du tourisme, dossier cet après-midi de la Terre au Carré avec nos invités. Lucie Azéma, on en parlait tout à l'heure, hein, vous avez un regard donc féministe vous aussi sur le voyage. Vous attaquez à l'imaginaire collectif du baroudeur viril par exemple dans votre ouvrage. Et vous consacrez aussi donc un chapitre au voyage décolonial. Pourquoi ça reste très genré le voyage, Lucie Azéma ?
Oh, on peut remonter à très très loin. C'est aussi notre, en fait, ça a trait à la vision de l'espace. Donc l'espace traditionnellement extérieur, le monde de l'infini et le monde masculin. Et la femme est cantonnée plus à l'intérieur, au foyer. On retrouve ça dans
dans le Pénélope et Ulysse, on a la figure masculine qui devient, enfin, qui passe du garçon à homme en partant à l'aventure, tandis que la femme trouve sa valeur dans l'attente et dans la fidélité. Donc forcément, ça nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est un peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant aussi. C'est un regard sur le monde, c'est une prise de parole, c'est une transgression, c'est une liberté, c'est le droit à prendre sa vie en main aussi. Donc forcément, les femmes ont été traditionnellement exclues de ça. Elles ont même été longtemps interdites sur les bateaux. Il y a une longue histoire de l'enfermement, de l'interdiction des femmes à voyager. Mmh. Et aujourd'hui, même si il y a plus ce verrou sur la porte qui empêche les femmes de voyager, en tout cas en Occident, ça se retrouve sous d'autres formes, c'est certain.
Vous parliez d'Ulysse à l'instant, Lucie Azéma. Sylvain nous écrit « Ulysse était-il un touriste ?» Qui peut répondre à ça, Linda Bourcris?
Alors Ulysse, quand il arrive quelque part, il demande « Ces gens sont-ils hospitaliers ?» Ça veut dire « Non, c'est pas un touriste, c'est un voyageur. » Et donc, puisque sa quête, c'est de revenir chez lui.
Et Pénélope, alors, c'est une...
Ça, c'est une construction anthropologique très, qui est genrée, qui dans certaines sociétés peut être inversée, mais voilà, il y a celle qui, effectivement, c'est exactement ce que vient de dire Héloïse. Lucie Azéma, c'est vraiment la femme qui attend, qui est le lieu d'hospitalité, celle qui accueille, et puis l'homme qui voyage. Et ce qui est intéressant...
L'explorateur.
Et dans Ulysse, juste sur cette question de genre, les deux fois où il a moins de problèmes, c'est quand il est accueilli par des femmes, en fait. Dans
au passage.
Tout son périple. Voilà.
Petite parenthèse.
Et donc, être inhospitalier, c'est les différents endroits où il va être, il va se faire manger, enfin, ses marins vont se faire manger, etc. Et donc, les fois où il est accueilli par des femmes, ça se passe différemment. Donc, ça redit, en fait, quelque chose d'une organisation genrée.
Linda Bourcris, comment on réfléchit, alors, finalement, quand on a envie de s'interroger, évidemment, hein, sur le voyage idéal, le voyage décolonial aujourd'hui, par où il faut prendre le sujet, en fait, hein? Est-ce qu'il faut d'abord se dire, est-ce qu'il faut prendre l'avion ou pas, ou est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réflexion?
Alors, je pense que je resterai sur cette question du désir, du voyage et de prendre conscience. C'est d'abord une première étape, me semble-t-il, de conscientisation. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on s'inscrit dans une longue histoire de fabrique, d'imaginaire. Alors, on a parlé de la nature, mais c'est aussi des imaginaires. C'est de dire, lorsque l'on visite le site d'Angkor au Cambodge, on s'inscrit aussi dans une certaine histoire de l'empire indo-chinois, du rôle de ces puissances coloniales dans la fabrique d'un certain nombre d'imaginaires qui sont aujourd'hui et qui ont toujours circulé, qui ont circulé en Europe, à travers les expositions coloniales, à travers les cartes postales, à travers les guides touristiques. Rappelez-vous que les guides bleus du Maroc sont préfacés par le maréchal Lyautey sous le protectorat. De la même façon, voilà, on retrouve les
donc
premiers...
Donc le tourisme naît, en fait, dans ce terreau-là,
dans
en
ce
fait,
contexte-là.
Colonialiste.
Ça a été un outil de propagande impériale et coloniale. Les premiers guides touristiques du site d'Angkor, et vous retrouvez aujourd'hui le Lonely Planet avec la même représentation du temple d'Angkor, ont été écrits par les premiers conservateurs français du site patrimonial, avec une certaine idée et une certaine pratique du lieu qui invisibilise les pratiques sociales, locales, le fait que ça a été aussi un site composé de plusieurs temples, pas uniquement celui d'Angkor Wat, qui a d'ailleurs été reproduit au moment de l'exposition coloniale à Paris en 1931, et que c'était un lieu aussi de pèlerinage régional bouddhiste. Voilà, toutes ces complexités d'histoire, de pratiques, qui sont souvent invisibilisées par des imaginaires qui réduisent, qui simplifient les réalités de ces territoires.
Donc là, il y a quelqu'un qui écoute, qui dit « Ok, d'accord, bon, j'ai pris conscience de ça, est-ce que je peux quand même voyager en mode décolonial ? Est-ce que ça suffit ?»
Ça veut dire quoi ? Non, mais ça veut dire que c'est une première étape, c'est-à-dire c'est un processus de prendre conscience qu'on s'inscrit dans cette histoire et donc d'apprendre aussi à décentrer le regard. Et donc, par exemple, dans le cas du Costa Rica, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire ne plus aller au Costa Rica.
Parce qu'il y en a qui vont dire « C'est bon, je vais au Costa Rica, j'ai décentré mon regard, c'est bon, je peux y aller tranquille. »
Alors, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Ok, on peut aller visiter des parcs nationaux, les espaces protégés, on peut faire son petit petit tour de tyrolienne, mais aussi peut-être prendre le temps. Il existe un certain nombre de projets touristiques, d'initiatives touristiques portées par des habitants qui tentent de montrer aussi d'autres rapports à l'environnement. Hein, et notamment dans la plaine caribéenne du Costa Rica, vous avez des familles afro-costariciennes qui ont des chambres d'hôtes, qui proposent des cours d'herboriculture, qui proposent des cours de pratique culinaire et donc qui inscrivent la question de la conservation au cœur d'une éthique du quotidien qui passe par l'alimentation, qui passe par le travail de la terre, qui passe par la santé physique, la santé mentale, la santé... Voilà. Et donc, c'est nous ouvrir à d'autres mémoires, d'autres pratiques et un autre rapport à l'environnement qui passe de la commodité au commun. Et donc, ces projets-là, ils existent, ils sont pléthores, ils sont de plus en plus documentés par des chercheurs et qui montrent qu'on peut se rendre dans un certain nombre de territoires et aller à la rencontre de ces projets-là pour voir d'autres choses que la simple carte postale de la plage tropicale.
Saskia Cousin, pour compléter hein, là-dessus, sur cette idée, effectivement, certes, on décentre le regard, mais en quoi on est un voyageur décolonisé
Alors, décolonisé, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a la question des récits, des imaginaires, et puis après, comment on fait concrètement Et quand je disais 80% de ce qu'on dépense un touriste du Nord revient au Nord, la question, elle est là. Elle est... Alors, ça ne sera peut-être pas 80, ça sera 70, ça dépend, on va dire, de l'industrie aérienne beaucoup aussi, mais se poser la question de comment est-ce qu'on peut accéder à, justement à d'autres lieux, d'autres visites, d'autres récits que ceux qui ont été mis en forme et qui vous sont désirables parce que c'est des images que vous reconnaissez, puisque le tourisme est fondamentalement mimétique. Et donc, aller voir à côté, en fait, ce à quoi on ne s'attend pas. Et c'est
exemple,
ça qui est très compliqué.
À côté, c'est quoi? C'est au bout de la rue, vraiment?
Alors, justement, Caroline demande, est-ce qu'il existe des balades organisées au coin de la rue, comme vous dites?
Alors, tout à fait. Dina peut en parler, elle en organise aussi. Mais, par exemple, moi, je prends l'exemple d'une initiative qui s'appelle Les Hôtes Urbains, qui existe depuis une dizaine d'années, qui est un travail, donc là, pour le coup, qui a existé dans toute l'Europe, pour l'Île-de-France, qui sont des balades qui sont sur l'histoire. Comment est-ce que Paris et l'Île-de-France est construit à travers l'immigration, c'est-à-dire voir l'histoire des migrations comme un patrimoine qui construit la ville et non pas comme un problème. Et ces balades sont faites par les personnes issues d'immigration, sur personnes réfugiées. Donc, vous avez une balade sur l'exil politique, par exemple, à Fontenay, je crois, qui parle de l'exil chilien, en fait, toute l'histoire chilienne. Et qui est faite par une jeune réfugiée guinéenne. Vous avez aussi en Seine-Saint-Denis sur l'histoire du hip-hop, mais plein de balades sur le rôle du FLN, du marché de Saint-Denis pendant la guerre d'Algérie. En fait, l'idée, c'est aussi, c'est pas juste. C'est changer son regard, mais c'est aussi donner la parole aux premiers concernés. C'est-à-dire ne plus aller regarder des personnes, mais écouter ces personnes et être avec. C'est-à-dire que c'est pas un discours sur les réfugiés, c'est un discours qui est produit par les réfugiés. Et donc en fait, et quand on va à l'autre bout du monde, c'est pareil. La question, c'est est-ce que vous avez un guide qui travaille et qui vous fait un discours sûr, ou est-ce que comment vous pensez l'interaction?
Est-ce que les personnes sur place, elles ont vraiment envie d'être interpellées aussi par plein de touristes? Est-ce qu'on peut aussi se poser cette question? Il y a quelque chose aussi de très intrusif à vouloir absolument vouloir discuter avec les populations locales, par exemple.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas de se ramener comme on faisait en se disant...
Je veux parler avec vous, je veux tout connaître de votre vie et vraiment les portes de votre maison.
Il y a des initiatives locales qui existent partout, en fait. La question, c'est la manière dont on peut y accéder. Donc, là, je vois, au Sénégal, il y a des choses qui se mettent en place depuis quelques semaines. Il y a la volonté, justement, de repenser le tourisme.
Dites-nous concrètement comment ça s'illustre.
Alors, pour l'instant, le gouvernement vient de changer. Donc, en fait, il y a une vraie réflexion sur cette question-là. C'est-à-dire la côte totalement bétonnée, avec des hôtels où les personnes n'ont plus accès aux plages, par exemple. Comment ça se passe pour que, à la fois, les Sénégalais puissent se réapproprier cet espace et que les touristes, les voyageurs, les personnes issues de la diaspora récente ou ancienne puissent, en fait, interagir. Et ça, c'est fondamental. Donc, se réapproprier les espaces. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'accueille plus des touristes, ça veut dire que la société sénégalaise se réapproprie ces espaces aussi pour les siens. Des lieux de vacances, comme des lieux de loisirs, mais qui accueillent des personnes étrangères, mais qui vont devoir partager l'espace avec les Sénégalais, bien sûr.
Mais il y a aussi une dimension au voyage, au tourisme paysagère, patrimonial. Si on reste à Paris, je veux dire Paris, première destination touristique au monde, les gens viennent pas pour rencontrer les Parisiens, les gens viennent pour voir le Louvre, pour voir la Tour Eiffel, pour voir des tableaux. Enfin, il y a une dimension très culturelle là-dedans.
Alors, Dans les études touristiques, ces 20 dernières années, se sont beaucoup intéressées au tourisme urbain et ont montré que dans les pratiques touristiques urbaines, il y a une recherche croissante de justement pouvoir aller voir l'envers de la carte postale. Donc, au-delà du tourisme culturel, d'être dans des pratiques touristiques qui sont celles des habitants. Donc, il y a une recherche active de la part d'un certain nombre de touristes, et notamment ce qu'on appelle les repeaters, hein, ceux qui sont déjà venus dans la destination, mais une recherche dans ce rapport à l'authenticité, d'être au plus près du Paris des Parisiens. Et ça, c'est parfaitement intégré par la communication institutionnelle de l'Office de tourisme de Paris, hein, qui va se traduire par la promotion notamment des quartiers périphériques, de la périphérie du Grand Paris.
Lucie Azéma, comment vous pensez cette question vous, aujourd'hui? Parce que évidemment, il y a ces figures du passé, hein, qui sont très inspirantes, mais aujourd'hui aussi en tant que femme, quand on a envie de voyager, comment vous articulez-vous les choses?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, et notamment sur le fait de dans quoi on met notre argent une fois qu'on voyage. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'écologie donc par rapport à la nature, mais il y a aussi l'écologie des cultures et des manières de vivre. Là, on sait qu'il y a une nidification aussi de certaines cultures qui sont faites sur place. Ça a été mis en valeur quand il y a eu toute la question des Ouïghours et que l'ambassade de Chine se servait présenter leur culture comme quelque chose de très folklorique. On pense par exemple à celles qu'on appelle trivialement les femmes girafes en Birmanie ou en Thaïlande, de pas en fait mettre son argent dans la visite de ce qu'on pourrait appeler presque du tourisme morbide et qui en fait maintient aussi des traditions ancestrales qui pourtant devraient avoir disparu parce qu'elles oppressent ou elles réduisent en esclavage. Donc il y a aussi tout ça, le rapport aux animaux, de pas forcément monter sur un éléphant quand on va en Inde, même si ça peut faire très envie comme ça. Il y a des choses comme ça. Après, la question de l'imaginaire et de comment on s'imagine un pays, je pense que de toute façon, le fantasme, parce que c'est de ça dont on parle, qu'on a par rapport à un lieu, c'est personne n'en sera jamais indemne. C'est ce qui déclenche l'impulsion à voyager aussi. Après, la question, c'est de l'abaisser au niveau de la réalité une fois qu'on y va et de pas enfermer l'autre dans ce fantasme qu'on a, d'essayer de s'en débarrasser une fois qu'on est sur place. C'est aussi une démarche personnelle et de comment on négocie avec soi-même toutes ces questions-là.
Oui, donc c'est vraiment penser les choses quand on est dans justement la mobilité et dans ce voyage. Ouais.
Je vous lis deux messages. Nicolas d'abord, comme nous le rappelle la citation de Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. De plus, c'est le voyage le plus écologique qui soit.
Ah ben ça, c'est sûr.
Et Nathanaël, lui, nous écrit, il est possible de voyager en restant chez soi grâce aux livres. Faites le tour du monde avec les enfants du capitaine Grant, la Sibérie avec Michel Strogoff, sans oublier Robinson Crusoe, le tour du monde en 80 jours, vendredi, ou La vie sauvage. Et en fait, n'importe quel livre, est-ce que ça peut être une forme de voyage décolonial, Linda Boukris ou Saskia Cousin de livre?
On va convaincre nos ados de ça ou pas? Parce que, évidemment, pour la génération qui a voyagé, c'est facile de coller un livre à ses enfants. Mais
je pense qu'on peut insister sur le fait qu'il existe déjà pléthore de. Il y a une pluralité des récits, et notamment, vous parlez de la métropole parisienne. Vous avez toute une plateforme qui s'appelle Explore Paris, où vous retrouvez des centaines de visites urbaines sur des thématiques diverses et variées et qui tentent de pluraliser cette image du Paris patrimonial, de l'hypercentre parisien. Et donc, il y a toutes ces visites-là qui peuvent être totalement pratiquées et qui permettraient d'ouvrir et de poser un certain nombre de questions liées à l'environnement, liées aux cultures, etc.
Oui, je suis d'accord avec Linda. Alors après, les ouvrages cités, à mon avis, ne vont pas dans une démarche qu'on pourrait qualifier de décoloniale, puisque justement, ils ont abondé à la construction de cet imaginaire.
Donc, il faut bien choisir ses lectures aussi.
voilà. Je suis pour absolument faire lire les adolescents, mais quand même, le rapport au voyage, c'est un besoin aussi. Enfin, comme on disait au début de l'émission, il y a quand même le besoin de sortir du quotidien. Et ce quotidien, ça peut être aller faire 3 stations de métro, hein, mais il y a le fait de faire quelque chose qui est différent de son quotidien. Mmh. Et donc, c'est le rapport au temps libre et d'occuper le temps libre. Et Jean Pinard, qui était directeur du tourisme en Occitanie, dit que son plus grand concurrent, c'est Netflix. Et que la question des loisirs, elle est fondamentale. Et quand on parle de décolonial, c'est aussi le rapport en fait, aux vacances. Là, on a quand même 40% de gens qui ne partent pas en vacances.
Il y a beaucoup d'inégalités. Hein, c'est voilà, ce que vous rappelez aussi dans vos travaux.
Donc, le rapport aux loisirs, sortir, aller s'enrichir au bas de la rue ou en prenant un train à un tarif acceptable.
Est-ce qu'il y a une agence de tourisme décoloniale, ça existe ça? Une agence de voyage décoloniale? Est-ce qu'on va en faire aussi un business quasiment?
À notre connaissance, ça n'existe pas en tant que soi, en tant que... Mais...
Non, mais les parcours de
les
visite
parcours
existent.
De visite, oui.
Là, on est sur un projet de recherche sur le patrimoine des périphéries dans le Grand Paris. Il y a énormément d'initiatives.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois, Saskia Cousin, Linda Boucris et Lucie Azéma. On met le titre de vos ouvrages en lien sur la page de La Terre au Carré. On vous remercie beaucoup d'être venus nous en parler cet après-midi.